Bonjour. Donc moi, je viens de présenter en fait ma problématique de thèse. Donc, comme Karim l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt une thèse qui se propose d'être en sociologie du droit. Donc, l'internormativité appliquée, c'est en fait un modèle de rapport au droit que je vais tenter d'aller essayer de vérifier sur le terrain plus tard. Ah, voilà. Donc, ce que je vais vous présenter d'abord, c'est une mise en contexte assez rapide. Donc, je vais vous présenter brièvement les théories juridiques et sociologiques sur l'internormativité. Et ensuite, je vais vous rentrer dans le cœur et présenter la problématique de recherche. Donc, d'abord la question, brièvement le cadre théorique, le modèle en lui-même, l'hypothèse préliminaire et la conclusion. Je peux changer ça. Okay. Donc, les auteurs que je vous ai placés ici, c'est évidemment pas exhaustif, mais ce sont des exemples. Donc, l'internormativité du point de vue juridique, c'est plutôt l'étude du rapport du droit à la société. Donc, d'abord, le droit comme système. Donc, ceux qui ont développé la théorie systémique, entre autres Luhmann et Töbner, donc n'ont pas vraiment parlé d'internormativité, mais ils ont quand même étudié l'internormativité par le biais de l'étude qu'ils ont fait de l'interaction des systèmes entre eux. Et d'ailleurs, Luhmann dit que la caractéristique principale d'un système, c'est justement sa relation avec la complexité du monde. Et il dit que le système juridique, par exemple, par le biais de ses participants, va communiquer avec les systèmes extérieurs, aller chercher des informations visées qui ont été d'abord sélectionnées. Et c'est par sa procédure qu'il va récupérer les informations et le transformer en matériel juridique. Le droit complexe et flexible, donc la complexité et la flexibilité du droit, ce sont des concepts qui sont empruntés à Carbonnier. Donc, ce qu'il veut dire, lui, c'est que la complexité, c'est l'entrée du droit dans un monde social qui est de plus en plus changeant et qui demande une redéfinition, en fait, du rôle du droit dans notre société. Et la flexibilité, c'est plutôt ce qui correspond à la définition de la juridicité elle-même. Donc, ces auteurs-là reconnaissent de façon générale l'émergence de foyers de droit qui ne viennent pas de l'État du tout et qui peuvent même être en rivalité directe ou indirecte avec le droit de l'État. Bellé, lui, dit que le droit se laisse courber par les forces du changement social, qu'il est capable d'emprunter des formes adaptées au contexte sans perdre sa substance. Et donc, le problème qui émerge de ce genre de théorie, c'est justement le repérage et la qualification du droit. Et finalement, le pluralisme juridique, que je qualifie comme ça parce que McDonald lui-même dit qu'il est de cette école-là. Pourtant, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a confusion entre normativité juridique et normativité sociale. Et donc, que c'est le sujet de droit qui fait le droit, finalement. Et donc, pour lui, les sujets de droit négocient les règles entre eux pour arriver à un accord. Et c'est comme ça que le droit émerge. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que ce n'est pas une question d'ouverture du droit sur le reste de la normativité, mais plutôt le droit devient très englobant et toute la normativité est récupérée par le droit. Donc, la question de pluralisme juridique ici, elle est à discuter. Tu peux changer. Donc, l'internormativité du point de vue sociologique, c'est plutôt le rapport de la société au droit. Par l'étude du droit vivant, donc ce qu'on fait, c'est de regarder quels sont les acteurs, quelles sont la conception que les acteurs ont du droit, donc dans leur quotidien. Donc ici, on aborde le droit comme un fait social, et c'est là que Noro parle de subjectivation de la règle de droit. Par exemple, Ewick et Sylvie, qui sont des anthropologues, en fait, ont étudié le rapport que les individus ont au droit en catégorisant justement ces rapports-là par plusieurs styles de position du sujet face au droit. Le pluralisme normatif, lui, il tend à dire en fait que les autres normativités que le droit sont donc pas forcément aussi importantes, il peut y avoir une structure, une hiérarchisation, mais reconnaissent l'échange qu'il peut y avoir entre le droit positif et le reste de la normativité. Par exemple, côté Rocher, parle d'autoréglementation dans les domaines où la technologie se développe extrêmement rapidement et le législateur n'a pas vraiment le temps de légiférer au rythme où la technologie avance. Et donc, ça va être l'autoréglementation par le milieu qui va créer la norme, qui va s'appliquer finalement, mais que le droit peut après récupérer cette autoréglementation-là pour en refaire du droit. Et par exemple, ce que Black dit, lui, c'est qu'on peut... On peut voir l'importance que le droit peut avoir dans la société par rapport à la variation du contrôle social informel. Donc les familles, les églises, le contrôle qu'elles ont, la normativité qu'elles imposent à leurs membres est inversement proportionnelle à la normativité juridique. Et l'équivalence des normes, c'est de dire qu'effectivement, on reconnaît l'existence de plusieurs sortes de normativité et on reconnaît aussi le fait que les gens se conforment de façon générale à toute cette normativité sociale-là. Et là, ce que les auteurs vont faire, c'est essayer de voir pourquoi les gens considèrent cette normativité-là comme contraignante, même si elle n'émane pas de l'État. Donc, voilà, si je peux changer. Donc, question de recherche qui vient de l'étude de la littérature, c'est comment les acteurs font-ils des choix normatifs et quelle place le droit occupe-t-il dans ce processus de choix-là? Donc, ce que je propose, c'est de se repositionner vraiment du point de vue de l'acteur lui-même et non plus des systèmes ou des groupes sociaux. Donc, le cas théorique, c'est le modèle rationnel général de Boudon qui repose sur trois postulats. D'abord, l'individualisme, donc qui veut que le phénomène social résulte en fait de ce qu'il appelle l'ADAC, soit l'action, la croyance, la décision, l'attitude et le comportement du sujet lui-même. La compréhension, c'est le fait que tout ADAC individuel peut être compris de l'extérieur. Et la rationalité, c'est le fait que les ADAC sont le produit de raisons qui sont plus ou moins conscientes par le sujet. Mais donc, ce que Boudon dit, c'est qu'en fait, on évalue plusieurs systèmes de raisons les uns par rapport aux autres et on fait un choix éclairé sur ces systèmes de raisons-là. Donc, je peux continuer. Donc, les systèmes de raisons comportent des raisons soit bonnes, soit fortes. Donc, les bonnes raisons, c'est celles que le sujet va accepter faute d'un sujet, un système supérieur auquel il adhérerait réellement. Et la raison forte, c'est celle que l'individu considère comme vraiment avérée. Et donc, il va faire ses choix selon cinq sortes de rationalité. Donc, d'abord, intéressé, c'est par rapport à ses intérêts personnels, donc selon un calcul coût-bénéfice. Cognitif, c'est des idées auxquelles le lecteur va adhérer parce qu'il les pense justes. Et évaluative, c'est une évaluation donc de la situation et qui va auquel on va se conformer aux besoins en fonction de la situation. Et donc c'est plutôt pragmatique comme rationalité. La rationalité pratique correspond vraiment à la poursuite d'objectifs dans un domaine précis, par exemple dans un milieu de travail. Et axiologique correspond plutôt à la morale, donc aux principes auxquels l'individu adhère. Donc avant de vous présenter le modèle en lui-même, il est important de définir la norme dont on parle dans le modèle d'internormativité appliquée. Donc la norme, c'est un discours prescriptif ou descriptif qui permet d'évaluer ou de mesurer la conformité des comportements aux objectifs clairs fixés par les producteurs de la norme. Elle se doit donc d'être observable par sa concrétisation dans l'action des sujets et elle s'accompagne toujours d'une sanction éventuelle dont la nature dépend directement du producteur. Et donc la norme, en fait, s'oppose à la règle par le fait qu'elle doit être observable, elle doit se concrétiser dans les comportements. Donc une règle qui est un discours prescriptif ou descriptif, mais qu'on ne peut jamais observer dans la réalité, n'est pas une norme au regard de ce modèle-là. Je peux y aller. Donc il existe quatre sortes de normes. C'est la norme formelle, interprétative, pratique ou subjective. Alors, la norme formelle, c'est le produit de l'État. Elle est explicite, sa sanction est étatique ou elle peut être déléguée à un organisme quelconque. Et l'individu s'y conforme par rationalité cognitive parce qu'il adhère au contenu de la norme, il croit que c'est la bonne chose à faire, ou par rationalité intéressée parce qu'il veut éviter la sanction. Donc, on parle essentiellement de la loi et des règlements ici. Je peux continuer. La norme interprétative, donc... Elle vient interpréter ou vulgariser ou compléter la norme formelle de façon générale. Donc, elle est conforme à la norme formelle et elle peut la compléter dans le but de l'application. Donc, c'est pour ça que c'est une institution qui va les mettre sous forme de documentation la plupart du temps. Et elle s'adresse à des personnes bien précises, donc qui doivent appliquer la norme formelle dans leur quotidien. Donc, elle dépend souvent de décisions administratives et de l'expertise des individus qui sont chargés de l'application de la norme formelle. On dit que la sanction peut être étatique aussi parce que la norme interprétative est conforme à la formelle, mais en fait, les deux sanctions étatiques ou institutionnelles peuvent se cumuler. Et le sujet y obéit par rationalité évaluative parce qu'il croit que c'est la meilleure chose à faire dans sa situation particulière ou par rationalité intéressée encore pour éviter la sanction. Alors la norme pratique peut s'observer dans tous les groupes sociaux. Donc c'est la pratique courante. Elle peut découler soit de décisions claires quant à une façon d'agir dans une situation X, ou bien ça peut être simplement la récurrence des comportements. Donc elle peut être explicite, surtout oralement, ou implicite. Alors là on va parler de transmission ou d'imitation de comportement. Les sanctions viennent du milieu lui-même, elles ne sont souvent pas déterminées à l'avance et elles peuvent prendre toutes sortes de formes comme les avertissements, les représailles et tout. L'individu va le faire par rationalité pratique parce qu'elle lui permet d'atteindre les objectifs qu'il doit atteindre dans son milieu, des objectifs qu'il s'est fixé lui-même ou que le milieu lui fixe, ou encore par rationalité intéressée, encore une fois pour se protéger de la sanction éventuellement, mais aussi parce que ça lui permet justement d'atteindre ses objectifs personnels, ses intérêts personnels dans la poursuite de ce qu'il fait, donc souvent de son travail. Et dans ce cas-là, dans le dernier cas dont je viens de parler, les rationalités pratiques et intéressées sont carrément confondues. Et cette norme pratique peut être récupérée par la norme formelle ou la norme interprétative si elle permet de maximiser le rendement de la norme formelle. La norme subjective, donc elle correspond carrément à la morale, à l'opinion ou à la codétermination de la norme formelle que l'acteur va faire. Donc c'est plus ou moins le sens que l'acteur peut mettre dans les interminations de la norme formelle ou de la norme interprétative. Cette norme-là est toujours tacite, c'est-à-dire qu'elle est connue que de l'individu, mais il peut toujours décider de la dévoiler si il veut justifier les choix qu'il a faits. Quand on parle d'autopunition, c'est un concept qui peut se référer à toutes sortes de choses, comme par exemple le fait de se déprécier ou de s'empêcher de faire quelque chose qu'on voulait faire, mais elle n'est pas obligatoire. Et la rationalité axiologique, évidemment, parce que ça correspond à la morale de chacun. Donc la norme subjective est très liée à la rationalité qui lui correspond. L'hypothèse préliminaire, donc, qui découle de ce modèle-là, c'est que les acteurs font des choix normatifs en fonction de la situation juridique dans laquelle ils se trouvent. Et c'est par le choix du terrain, en fait, qu'on pourra opérationnaliser l'hypothèse pour en faire quelque chose de plus construit. Et donc, le choix du terrain. Donc, j'ai choisi le milieu hospitalier parce que je crois qu'il me permettra d'observer la présence de diverses situations juridiques, puisque c'est une des obligations dans l'hypothèse. Donc, par exemple, le consentement aux soins, le soin dans les situations d'urgence, les personnes inaptes, l'ordonnance de soins, les gardes en établissement, etc. C'est un milieu qui est soumis aux normes formelles de toutes sortes, donc les lois et règlements étatiques, le code de déontologie, des professions, etc. Il est lui-même générateur de normes interprétatives, donc les institutions hospitalières elles-mêmes, mais aussi l'association des hôpitaux et les corporations professionnelles et tout. On peut retrouver la présence de la culture institutionnelle, donc des normes pratiques, dans une institution, dans les unités de soins elles-mêmes, mais aussi entre groupes professionnels, donc entre les médecins et les infirmières notamment. Et elle permet de cerner la subjectivité de l'acteur au sein du milieu institutionnel, ce qui est quelque chose qu'on fait rarement, puisqu'on on va souvent étudier l'institution comme une machine et dont les acteurs sont finalement simplement le membre qui répond à la volonté d'en haut. Et en plus, on peut penser que la nature particulière de la relation entre le soignant et le malade, qui est qui devrait être de nature empathique, permettrait donc une rationalité du moins cognitive ou axiologique dans les choix. Voilà.